justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Une émission digne de son nom, où le courage prend le devant, puisque nous sommes tous rappelés par notre devoir de citoyens à dénoncer l'abus de pouvoir, l'abus de l'autorité et l'insouciance politique chaque fois qu'il s'agit de la sécurité des citoyens. Dénoncer ceux qui pensent que le pouvoir leur appartient dans une société qui purge déjà par la distance grandissante qui se sépare de plus en plus entre le politique et les acteurs de la société civile, la sentence est le prix de la négligence. Nous sommes en permanence témoins de ce cercle vicieux de l'injustice qui frappe notre société, de l'abus du pouvoir, de l'autorité, chaque fois que l'occasion est propice, chaque fois que la garde est relâchée et la négligence reprend le devant. Selon le nombre de plaintes que nous recevons et nos rencontres avec les victimes, il devient tout à fait évident pour nous de le confirmer que la surveillance de la société civile et les droits de la personne sont prises à la légère, sans grand souci aucun. Donc voilà, brimer les droits fondamentaux d'un citoyen est devenu une question de routine, facile à se produire et à se répéter dans l'impunité totale. Puisque si vous cherchez à obtenir justice, la complexité du système judiciaire vous empêchera, alors obtenir justice devient un luxe qui n'est pas permis pour tout le monde. La plupart des citoyens acceptent l'humiliation et abandonnent la partie. Ceux qui sont supposés d'assurer notre sécurité sont noyés jusqu'au cou, si ce n'est pas plus, corruption, détournement d'argent, investir le poste et le pouvoir à des fins personnelles devient une priorité première. Dans cette société, et vous le savez tous très bien, mes chers citoyens, que le citoyen est réduit à la valeur d'un chiffre, d'un objet destiné d'être classé, un projet repoussé toujours à plus tard, bref, le citoyen comme tel n'a aucune valeur dans le marché politique, et je sais que vous le savez peut-être mieux que moi, mais je vous le rappelle simplement en cas où vous l'avez oublié. Donc c'est important de se rappeler que cette valeur devra et en urgence reprendre sa place, reprendre peut-être sa dignité, s'il lui reste-t-il un peu. Nous allons revenir très brièvement sur l'actualité de l'année qui vient, il faut le souligner, péniblement de s'éteindre dans un climat sombre, chaotique, peu prometteur, notamment au niveau politique et économique. Donc je profite du lancement de ce nouvel an pour la seconde fois pour vous souhaiter, permettez-moi, à mon nom, au nom de tous les membres du mouvement Action Justice, au nom de notre conseil d'administration, de mes collègues qui sont autour de moi, chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne année 2012, bonheur, santé, prospérité et beaucoup de sérénité. Que la nouvelle année fait que nous serons plus solidaires l'un pour l'autre et que les militantes et les militants pour la défense des droits de la société civile continuons à persister. Je sais que la tâche est pénible, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut quelque part quelqu'un le fasse, quelqu'un qui donne l'envie à la nouvelle génération de reprendre le flambeau, sinon l'avenir de nos enfants est foutu. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, Roland Cazès, toujours fidèle à cette émission. Il y a entre autres membres actifs de notre organisme. Il animera l'émission avec moi. Madame Rosemonde Legon, notre technicien de son et responsable du suivi administratif, participera également au débat de cette émission, sans oublier bien sûr notre invité, Madame Perlette Daher, une escarpée de la justice qui n'a jamais baissé les bras devant l'abus de l'autorité, et même si l'âge et la santé ne lui permettent pas, elle poursuit malgré son courage et malgré tout pour arriver à vaincre l'injustice. Voilà pourquoi donc tous ceux qui la connaissent admirent son courage et sa détermination. Nous l'avons invité justement pour nous parler de sa recette, comment nous arrive justement à résister, de ne pas renoncer à nos recours judiciaires chaque fois qu'il est nécessaire. Et par tout ça, donc, nous sommes toujours honorés par la présence de maître Andrea Popisco, qui nous parlera ce matin de ce qu'il a marqué de l'année 2011. Donc restez, mes chères auditrices, chers auditeurs, à l'écoute. Après notre thème musical, nous revenons avec un survol sur les événements qui ont marqué l'année 2011.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Voilà donc, rebonjour mes chères auditrices, chers auditeurs. Tout le monde tombe d'accord sur le fait que 2011 est une année un peu difficile, hein, marquée par des événements qui nous ont tous surpris, voire étonnés au plus haut degré. D'abord le renforcement du Parti conservateur, qui était d'ailleurs repoussé vers la sortie, surprenant de le revoir revenir majoritaire. Hein. C'est une réalité qui nous a bouleversés. Alors qu'est-ce qui a fait que ce parti qui détient présentement le pouvoir absolu passe aussi rapidement à ce point de force? Sûrement, ce n'est pas la ligne de sa politique étrangère qui l'a rendu à ce niveau, et encore moins sa préoccupation seconde de la politique interne. Alors la grande question qui se reste accrochée à la mémoire de cette année qui vient juste de s'écouler, qu'est-ce qui arrive ou plutôt qu'est-ce qui est arrivé aux Canadiens? Ils ont-ils perdu la raison dans ce choix qui est tout à fait plutôt crucial et qui ne reflète en aucune manière les principes et les valeurs des Canadiens? Et le plus bouleversant dans tout ça, est-ce qu'il y avait aussi des Québécoises et des Québécois qui ont emboîté le pas? Le peu qu'on peut dire que remarque de cette manœuvre, de ce choix, c'est que les citoyens sont totalement désintéressés de la vie politique. Je comprends aussi découragé. Le résultat semble-t-il évident. Choisir un leader sans être trop préoccupé de la voie qui va prendre ou reprendre une fois élu, une perte de confiance, si vous voulez, dans l'homme politique. Alors, dans ses esprits, ils sont tous pareils et le choix n'a pas d'importance et justement, c'est tout à fait faux. Il reste que nous confirmons et nous le répétons que la ligne dictée par le chef du Parti conservateur, Stephen Harper, ne représente nullement la pensée de la majorité du peuple canadien et encore moins celle du peuple québécois. Dans cette nouvelle ère de démocratie, nous assumons le choix des autres, sans être forcément d'accord, bien sûr, et nous suivons de près les gestes et les directions de cette marionnette qui est téléguidée, semble-t-il, à distance. Sur la scène provinciale, l'année 2011 nous a dévoilé le vrai visage du chef du Parti libéral, Jean Charest, un homme qui fait tout pour cacher la vérité aux citoyens. Son duel avec Marc Balmar, l'a réduit à la non-considération de la part du citoyen. N'oubliez jamais que Jean Charest avait encouragé et incité Maître Balmar de mentir sur les raisons de sa démission. Il avait intimé de taire ses informations compromettantes sur les nominations du juge et l'échange d'argent liquide au Parti libéral. Rappelez-vous aussi des témoignages de Maître Balmar de cette fameuse rencontre avec le Premier ministre Jean Charest, où celui-ci lui avait dit « Tu sais que tu as un serment de confidentialité. » Donc, Franco Fava, Charles Rondeau, les juges, l'argent, ça n'existe pas. Tu n'as pas le droit de parler de ça. Autrement dit, tout ce qui est vrai, il ne faut pas le dire. C'est un ordre, il faut l'exécuter. Donc, évidemment, qu'aucun citoyen n'avait douté dans la parole de Maître Balmar. Il était très sincère, crédible, honnête. Mais qu'est-ce que vous voulez, devant un requin politique, un manipulateur, sans mesure aucune, les chances deviennent quasiment nulles. Cette confrontation entre les deux hommes nous a dévoilé aussi un Jean Charest hypocrite, qui fait tout pour cacher la vérité au public, qui refuse la transparence dans toutes ses formes et qui ne gêne pas d'avancer des prétextes qu'ont protégé soi-disant les preuves, alors que celui-ci, lui-même, qui a tout fait pour enterrer les preuves réclamées par le public. Imaginez-vous, chère auditrice, chère auditeur, pendant 2 ans, le public et toutes les partis politiques n'ont jamais cessé de réclamer cette fameuse enquête sur la corruption en particulier. Mais Jean Charest avait trouvé la force nécessaire de refuser. Sous l'explosion de la pression, il a cédé des terrains d'arnaque, barrés par des écrans de fumée jusqu'à la racine de la honte, puis il a cédé définitivement là où ce n'était plus possible de continuer son manège. Un dossier toujours à suivre. Tout ça pour dire que les dirigeants qui ne répondent pas à la demande du public n'auront pas de place normalement dans la vie politique. Maintenant, sur la scène internationale, l'année 2011 a été celle des soulèvements dans le monde arabe. Des centaines de milliers de personnes ont envahi les places publiques pour exiger le départ des despotes, qui dirigent leur pays. Donc, une démonstration considérable de force pour nous rappeler que le vrai pouvoir appartient au peuple. Et c'est au peuple qui revient finalement le dernier mot. Et même si ces révolutions, dans leur grande majorité, étaient pacifiques, intelligentes, justes, elles avaient également un prix à payer, le prix du changement et de la liberté était coûteux. Un événement qu'il faut souligner absolument, le retrait des troupes américaines de l'Irak, une mission chapeautée par l'échec du départ à la fin. La leçon ne dicte que l'ingérence sur des sols souverains n'apportera que des ennuis et justement s'enrichir des sources de la partie envahie est une humiliation sans borne. Voilà une réponse claire et nette à nos conservateurs et plus précisément à leur chef qui exhibe une force négative, des démonstrations provocatrices non intelligentes qui briment l'image honorable d'un Canada pacifique. De nouveau ici au Québec, un nouveau parti voit la lumière. Est-ce que, à cause d'un vide politique ou un autre, mon collègue Roland Cazès va nous dire un mot, suivi peut-être de son avis du projet de la loi 46, les policiers qui vont continuer d'enquêter pardon, d'enquêter sur les policiers en cas de bavure grave. Madame Legault aussi nous parlera d'Occupons Montréal et le sort des indignés, cette sortie courageuse qui nous rappelle l'immense écart qui sépare les riches et les pauvres. Et ce n'est pas parce que les pauvres ne travaillent pas, mais au contraire, malgré les heures de travail, ils demeurent toujours pauvres. Et avant de passer à une pause musicale, il faut souligner que l'année 2011 était marquée aussi par l'acquittement de Guy Turcotte, ce docteur qui a tué sauvagement ses deux enfants. Et c'était soi-disant difficile de croire qu'un beau-père ait pu tuer ses enfants sans être dans un moment de folie. Le procès de Mohamed Chafia, cet Afghan qui a tué ses trois filles, lui aussi a déclaré qu'il aimait plus que tous ses enfants, mais sa thèse n'a pas l'air de convaincre personne. Voilà l'occasion à ne pas rater et la sentence sur le crime d'honneur et l'avertissement envoyé aux immigrants vont être durement renforcés, ce qui nous montre une justice à deux vitesses. Voilà donc, nous passons à notre pause musicale et nous revenons avec l'équipe d'équipe pour connaître ce qui les a marqués en 2011. Restez mes chers auditrices, chers auditeurs à l'écoute.
À la chambre de commerce, une pilule pour traverser l'averse, le cafard à la porte et plusieurs milliards dans la compote. King fraudeur en smoking s'enfuit dans le smog vert de gris. D'ici c'est difficile de voir le paradis. La face pluguée dans l'exhaust de la Ferrari. Des calendriers, les éclats de larmes sur le plancher, de larmes sur le toit, guettant comme un oiseau de proie. Et le petit psy qui suit comme un chien de poche, j'ai peur que lentement le tonnerre se rapproche. Que lentement le liquid paper efface mon nom. Fait la file comme des cons, lavé comme des esclaves de la dépense. Je veux marcher à reculons pour avancer dans le bon sens. We'll be right back.
auditrices, chers auditeurs, j'ai autour de moi, comme je l'avais déjà signalé, Maître Andrea Popisco, j'ai Madame Daher, Perlette Daher, j'ai Monsieur Roland Cazès et j'ai ma technicienne de son, Madame Rosemonde Legault. Donc je commence dès le départ avec Monsieur Roland. Bonjour Roland.
Oui. Ça va? Oh, bah, très bien, très bien. On a bien commencé l'année.
Voilà. C'est important. J'aimerais bien. Je sais qu'il y a. Est-ce que l'apparition d'un nouveau parti politique présidé par Monsieur Legault, est-ce que c'est un signe de vide politique ou qu'est-ce qu'il y a?
Non. En définitive, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Là, c'est la même affaire, sauf que au lieu d'être libéral, c'est une espèce de parti conservateur libéral qui jongle à droite, à gauche. Enfin, qui saute sur tous les taillis puis qui va un peu de partout et qui, en définitive, c'est quelqu'un qui n'était pas d'accord avec Madame Marois et puis qui a débarqué et qui a formé son parti politique. Il y en a d'autres, mais c'est toujours pareil au Québec. Nous avons tendance à diviser, naturellement pour mieux régner, on nous crée des partis politiques. Il ne faut pas oublier qui est autour de Monsieur Legault.
Mais ce qui est important, Monsieur Roland, si vous permettez, oui. Est-ce que pensez-vous pas qu'il y a plus de chances à Monsieur Legault d'obtenir des résultats, puisque les gens ils ont plus de confiance maintenant, hein, il y a un problème.
On peut se comparer pour mieux s'aimer ou bien pour mieux s'apprécier. Regardons donc dans les pays arabes par exemple. Ouais. On peut se comparer, il n'y a pas de gêne à ça. Combien de partis politiques se sont présentés? Et voilà, la division a fait que certaines personnes se sont accaparées du pouvoir et règnent en maître avec ce pouvoir. Parce que c'est la division qui fait, c'est la division qui rend en définitive les partis politiques faibles, les oppositions faibles. Parce qu'on a un petit différent. Ah oui, je suis souverainiste avec Kader, je suis souverainiste, mais moi je vois ça comme ça. C'est-à-dire que je vois le parti de chez nous, là, les roses et puis le pain et puis les roses et puis les femmes. D'un autre côté, vous avez un autre parti qui commence et puis qui va disparaître. L'ADQ, ça a été pareil.
Mais je veux savoir, est-ce que vous pensez que M. Legault profite de la chance, cette chance-là, qui se présente?
Non.
Est-ce qu'il a profité de cette chance-là, du vide politique?
Le vide politique, c'est ni plus ni moins que, ayant une opposition faible, nous ne pouvons pas combattre la corruption. Quand dans un pays il y a la corruption, automatiquement c'est la zizanie. Et là, un rit de l'autre, et puis c'est de la foutaise, ils se moquent l'un de l'autre, ils envoient des bavures. Ce n'est plus de la politique, c'est de la cour d'école. Je m'excuse.
Maintenant, je passe directement à la voile. Ouais. Pour le 2011, pour les municipalités, vous avez quoi à dire?
Alors, aux municipalités, regardez, voyons le vérificateur au niveau municipal. Ouais. Soi-disant qu'il a fait de l'espionnage, ceci, sur Internet, et ainsi de suite. Ouais. Là, on le traduit en cours, il doit se servir de son budget pour se défendre. Ouais. Ça veut dire qu'est-ce qui lui restera pour défendre les causes des citoyens? Il n'aura plus de budget.
Mais attendez, éclairez-moi, c'est pas le maire, l'administration Tremblay qui a regardé
non.
les courriels du vérificateur?
Du tout. Le vérificateur, en vérifiant, voulait vérifier justement la situation. Et en voulant vérifier la situation, il s'est peut-être plongé sur l'Internet. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'on a accusé d'espionnage. Mais ce monsieur, il est là pour espionner, justement, le pouvoir. Alors, s'il n'a plus le droit de faire son travail et qu'on lui reproche d'être un espion, à ce moment-là, ce gars-là est obligé de se défendre en cour parce qu'il est attaqué par M. Tremblay et compagnie. Mais écoutez, pendant ce temps-là, on achète des îles à 275 000 dollars que l'on paye 14 millions. Ça, c'est avec l'argent des citoyens. Et on va augmenter les taxes de 4,9% en moyenne dans toute l'île de Montréal. Mmh. Avec toutes les autres municipalités conjointes à ça.
Mais c'est pas juste le maire Tremblay autour du maire Tremblay.
Mais c'est les magouilles qu'il faut surveiller. Quand on met quelqu'un pour vérifier les magouilles, mais il doit aller mettre son nez partout. Je regrette. Monsieur Tremblay, vous n'avez pas à nous faire de leçons de morale et vous n'avez pas à nous dire le rôle qu'il a à remplir. Je regrette, il doit mettre son nez partout. Il est là pour vérifier les comptes.
Ben, ça serait intéressant de voir c'est quoi ses pouvoirs, en fait, parce que je sais que les courriels de Claude Dauphin, qui était le maire de, je me souviens plus quel arrondissement.
De la Chine.
De la Chine, ont été quand même espionnés et que les courriels du vérificateur ont été espionnés par l'administration Tremblay, ce qui est d'autant plus troublant.
Je m'excuse, nous sommes des citoyens. Cette ville nous appartient. Nous payons des gens pour l'administrer. Et nous payons des vérificateurs pour vérifier. Alors, il a le droit d'aller sur Internet, il a le droit de lire les courriels, à moins que ce soit des trucs privés. Mais le service, si vous travaillez pour MAGE, Mademoiselle Legault, oui, j'espère que vous n'avez pas vos courriels privés sur notre liste, parce que c'est privé.
Mais des fois, j'envoie des bisous à Andrea.
Mais vous pouvez envoyer un bisou à quelqu'un que vous connaissez, que vous avez sympathisé. Mais ce que je veux dire par là, nous, on a le droit d'aller voir les courriels.
Oui,
et vous
ne
pouvez
sûr.
Pas nous en empêcher.
Bien
alors,
bien
parce
sûr.
Que notre devoir est de surveiller notre courriel. Alors moi, je dis à monsieur le maire Tremblay que le monsieur qui surveille les magouilles au nom des citoyens a le droit d'aller enquêter. Est-ce que la police n'a pas le droit d'enquêter lorsqu'ils enquêtent sur un sujet quelconque?
Voilà, donc on va juste changer un petit peu on va changer la discussion en laissant un petit peu monsieur Roland Cazas se reposer un petit peu. J'aimerais bien retourner à madame Legault. À propos, je sais que aussi le 2011 était marqué par les indignés et les occupants Montréal. Avez-vous quelque chose à nous dire? Qu'est-ce qui vous a marqué?
C'est sûr que moi, occupant Montréal, ça m'a beaucoup marqué parce qu'ils ont eu une présence marquée justement sur au Square Victoria qui a été renommée la Place du Peuple.
Oui,
peut-être
oui.
Un jour,
c'est quand même courageux de la part de ces citoyens-là qu'ils ont quand même
resté
pendant combien de temps ils
sont restés d'octobre à début décembre, là, donc à peu près un mois, presque deux mois.
Oui.
C'est ça, à peu près deux mois. Oui. Mais il faut dire, je les ai vus au métro Mont-Royal récemment, ils en tenaient des chants de Noël mais qui étaient transformés à la sauce révolutionnaire et indignée pour apostropher les gens dans le métro qui semblaient à peu près tous sympathiques à la cause, qui s'arrêtaient, qui riaient bien, qui appuyaient les gens d'Occupant Montréal.
C'est une cause qui est internationale quand même. Hein?
C'est une cause internationale qui est partie avec, en fait, qui est dans la mouvance du printemps arabe qui s'est déroulé, le printemps arabe, il faut dire, sur plusieurs pays. Je crois que c'est
plutôt la crise économique qui a fait vraiment sortir.
Crise économique, c'est sûr, parce que ça touche les gens directement dans leur poche. Ont besoin de manger puis de nourrir leurs enfants.
Oui.
Et aussi, c'est une crise politique parce que pour le printemps arabe, c'était des dictateurs qu'on dénonçait, c'était des mesures qui étaient très, très répressives qu'on voulait tasser. Pour ce qui est de l'Europe, parce que ça a commencé en Europe avec Los Indignados en Espagne, c'était purement économique. En fait, c'est les jeunes qui sont très, très éduqués en Espagne, il faut le dire. C'est des gens qui sont suréduqués. Et le taux de chômage est absolument faramineux en Espagne. C'est assez inquiétant. Ouais. Donc, les jeunes se sont rassemblés à Madrid et se sont simplement indignés sur la place pour dire, nous, on sait que les élections arrivent. On veut vous dire qu'on en a marre d'être sur le chômage. On veut travailler.
On
a les compétences pour le faire. Et on a l'énergie. On veut notre place.
Oui.
Et on veut pas que l'économie gouverne notre futur, que cette grosse entité-là gouverne notre futur et notre présent,
Et cette voix-là, elle est prise de là pour être...
Elle a été dispersée à travers l'Europe et ensuite l'Amérique et aussi dans quelques pays d'Asie. J'ai vu... Merde. Excusez-moi, ça va être la pause.
Donc, ce qu'on va faire, on va juste passer à une pause musicale. C'est pas la pause musicale, c'est la publicité et une pause musicale. Et on va revenir avec vous.
Au cosmos, il y a des cosmos. Le monde est à nous. Le monde est à nous à découvrir des pays, des cultures, des musiques. Venez voyager avec nous dans la programmation en langue grecque tous les lundis soirs, 20h30, sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102,3. FM.
Ne manquez pas Voyages musicaux, Nuit d'Atron,
Yamgok-Baitong,
une émission de découverte musicale de Montréal
à Hong Kong,
à Shanghai, en passant par le monde entier.
Avec Simon Onkantner
et Sabina Amandada, tous les mardis soirs de 22h30 à 23h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
Voici à quoi ressemble une décision. Veuillez vous lever.
Vous avez le choix de boire de l'alcool avant de conduire. Si vous tuez quelqu'un alors que vos facultés sont affaiblies, vous pourriez vous retrouver en prison pour longtemps. Cela en décourage plusieurs, mais encore trop de gens s'en sortent sans graves conséquences. C'est une honte. Chez MAD Canada, nous croyons que les victimes ont droit au respect. Les contrevenants méritent d'aller en prison.
Changez pour le mieux.
MAD Canada, aidons les victimes. Mettons fin au crime.
Travail global.
Pour trouver un travail immédiatement, attention, nouveau bureau à Laval au 4040 boulevard Le Corbusier.
Pour travailler immédiatement, téléphonez au 450-937-6662 ou visitez travailglobal.com.
Pour Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud, trouvez un emploi avec Travail Global.
Votre soleil quotidien se retrouve sur Radio Centre-Ville, votre station communautaire connectée à la diversité, aux communautés de Montréal. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc voilà, rebonjour chers autrices, chers auditeurs. On va reprendre, revenir avec Madame Rosemonde Legault pour finir ce qu'elle avait commencé. Oui, Madame Legault, vous disiez.
Oui, en fait, je voulais simplement parler des quelques critiques qui se sont élevées peut-être dans le monde communautaire ou chez les analystes politiques qui disaient que c'était un mouvement qui n'était pas organisé et qui dispersait son propos dans son manque d'organisation et dans son refus de proposer des solutions et des leaders.
Et c'est vrai. Ça,
pour pouvoir...
Je ne suis pas d'accord moi, avec vous, là, je m'excuse.
L'indignation,
c'est général.
Je vais juste rapporter ce, que,
non,
ce qu'on
mais
dit.
L'indignation, c'est général. Oui. Mais savez-vous, ceux qui veulent démolir ont facilité justement à assommer les gens en prétendant mais ils n'ont aucune cause, ils ont tout et rien. Mais c'est parce qu'on est indigné, on est tanné de se faire rouler par les banques... complices avec les gouvernements. Oui. N'oubliez
mais,
pas
mais,
ça.
Mais Roland, juste une chose, parce qu'il reproche à ces gens-là qu'ils n'avaient pas de proposition. Ils ne proposent rien.
Mais ça. C'est pas à nous de proposer. Nous avons des hommes politiques. Ces gens-là sont des citoyens.
Oui.
C'est le citoyen qui en a ras-le-bol.
Oui, mais qu'est-ce qu'ils proposent alors que les politiciens n'ont pas et n'ont rien à proposer?
Eh bien, parce que les banques sont de plus en plus intéressées à donner des intérêts à leurs administrateurs et à les gens qui investissent. Oui. Ils veulent leur donner de plus en plus de profits. Les compagnies veulent donner de plus en plus de profits, de plus en plus riches, du monde de plus en plus riche autour de leurs actionnaires. Oui. Et tandis que l'ouvrier, lui, eh ben, il se fait, excusez-moi, là, je vais dire un mot vulgaire, mais il se fait baiser pour sa pension, il se fait rouler.
Oui. Je suis d'accord avec vous, le citoyen doit absolument s'indigner, mais à partir de là, je crois qu'on peut laisser un peu la place à la critique et dire, à un moment donné, il faut que la masse sociale propose quelque chose. Maintenant, est-ce que les indignés ont rien proposé? C'est pas le cas. Les indignés,
ils ont proposé des choses.
Bien sûr, de proposer.
Mais oui, bien sûr qu'ils ont parce qu'ils veulent, ils veulent proposer une société qui serait plus équitable.
Plus équitable.
Ça, ils l'ont proposé.
Mais pas en détail, par exemple. Mais ouais. ils avaient besoin encore de temps pour formuler un petit peu la demande.
Comme moi, j'ai répété depuis le début face à cette critique-là, je me dis, mais je m'excuse, mais les partis politiques sont ultra organisés. Ça fait des décennies qui sont mises en place. Oui. Je veux dire, leur proposition, ça a été mûri pendant X nombre d'années. Puis quand ils sont élus, ben, ça leur prend 4 ans pour peut-être même pas réaliser ce qu'ils nous disent
les
qu'ils vont
lobbying.
Réaliser.
Les lobbying. N'oubliez pas ça. Les lobbying sont tout le temps derrière le gouvernement en train de les fouetter. Le gouvernement, ce sont des chevaux, des lobbyistes.
Mais Roland, excuse-moi, Roland, pensez-vous pas que les politiciens, ils ont des propositions, mais ils ne veulent pas les mettre sur la table?
Ben, c'est pas intéressant pour eux parce que ceux qui les financent, couperont les finances automatiquement, ces gens-là se retrouvant. Regardez, les nouveaux partis politiques ont toujours un financier derrière.
Oui.
Monsieur Legault, quel est le financier de Monsieur Legault? Entre nous, là.
Oui, mais ça, on l'a vu
c'est
avec sa fondation pour l'éducation.
C'est l'ancien téléphone international.
Oui.
Monsieur Giroir. Mais ce que j'essaye de vous dire, là, n'oubliez pas que les financiers sont derrière les gouvernements. C'est eux qui fouettent les chevaux. Les gouvernements, les députés sont des chevaux qui sont fouettés par les financiers derrière. Et regardez aux États-Unis, il y a une nouvelle mode. Ceux qui font le lobbying juif, par exemple, ben, qu'est-ce qu'ils prétendent? Eh ben, ils prétendent tout simplement qu'ils sont juifs catholiques. Connaissez-vous des juifs catholiques, vous? Moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie.
Ce sont
des gens qui, en définitive, contrôlent les gouvernements. Il y a un député républicain qui s'est présenté avec l'étoile de David. Je m'excuse. Du jour où nous mettrons la religion emmanché avec la politique, oui. Et bien voilà ce que ça va donner. Il ne faut pas que les religions rentrent dans la politique.
Il faut pas
mêler
les
religions, c'est une chose, et la politique, c'en est une autre. Oui. Alors, on critique les Arabes lorsqu'ils sont islamiques, mais quand on se regarde, nous, notre nombril, on regarde de plus en plus les religions dans les partis politiques. Monsieur Harper appuie un parti religieux qui interdit, par exemple, l'avortement, qui interdit ci, qui interdit ça. Ça, c'est très dangereux. Mm-hmm. On doit chasser les politiques.
Mais c'est difficile, hein, c'est un peu difficile de dire. Hein, c'est
pas facile. Ce n'est pas difficile.
Madame Legault, avez-vous quelque chose à dire pour les indignés, non?
Monsieur Cazès, vous m'avez un peu coupé, je suis un peu perdue là, dans ce que je voulais dire. Moi, j'espère simplement dire aux auditeurs que le mouvement Occupy Montréal, en tout cas, continue. Ouais. On entend encore peu parler d'eux dans les réseaux peut-être plus alternatifs. Ouais. Je trouve que c'est intéressant de...
Ils n'ont pas baissé les bras, vous voulez dire.
Ils n'ont pas baissé les bras, c'est plus difficile, c'est l'hiver, les gens écoutent peut-être moins bien. Moi, quant à moi, je pense qu'il faut s'indigner, mais il faut aller plus loin, il faut poser des actions.
Et intelligemment aussi. Intelligemment,
il faut s'exprimer.
Pacifique, intelligemment.
Oui, et proposer quelque chose, proposer une meilleure société.
Il faut des observateurs dans nos systèmes. Est-ce que vous connaissez la quantité d'argent que ramasse le cachère?
Ah oui, non.
300 milliards par année.
Ouais, donc on va fermer ce registre-là, on va revenir.
Cet argent-là agit en politique.
Ouais, mais je veux savoir, Monsieur Roland Cazas, je veux savoir maintenant. On ferme ce registre-là, on revient sur la SPVM. Qu'est-ce que vous allez dire à propos de la SPVM 2011, qu'est-ce que vous a marqué
regardez,
2011
le système de la SPVM.
Toutes les bavures.
Nous avons Monsieur Vieilleux qui est passé à la télévision dernièrement, et lorsqu'on lui a posé des questions sur certains policiers, il a dit ça, c'est pas des policiers. Ouais. Je m'excuse. Un policier qui fait des gaffes, c'est un policier. Il est nommé policier. Un policier n'est pas là pour juger, il est là pour appliquer les articles qu'il pense avoir raison, et c'est au juge de décider si cet article rentre en fonction avec
c'est
ça.
C'est tout à fait normal, ça, oui.
Voilà.
Mais à propos des bavures et tout,
justement,
2011,
alors ils ont nommé, là, dernièrement, ils disent que ça sera des policiers qui vont enquêter sur des policiers.
Ah, vous parlez de la loi de 46, projet de loi de 46.
La loi 46.
Oui.
Est-ce que ça vous est pas arrivé, déjà, à votre travail, d'avoir un problème et de dire à un copain de travail, de dire, écoute, tu me couvre, hein, parce que j'ai fait une gaffe.
Ouais, mais ça, c'est...
Et ça se couvre entre copains là, de travail, ça se couvre.
L'esprit du corps. Hein.
Ouais, c'est normal. Ouais. C'est normal. Ouais. Si j'étais électricien dans une compagnie, je fais une gaffe, je fais sauter les fusibles, je vais dire au mécanicien, écoute, couvre-moi, tu diras que c'est le moteur qui a dû arriver.
Mais Roland, ce projet de loi là, qui finalement, il n'y a pas grand changement. C'est toujours les policiers qui vont continuer
moi,
à enquêter
contre.
Sur le policier. Ça amène quoi finalement?
Je suis contre. C'est les citoyens qui devraient avoir un comité, un espèce de jury enquêteur. Un jury enquêteur qui serait nommé des gens qu'on nommerait, qu'on prendrait sur la liste électorale, on demanderait, bon, veux-tu faire partie du jury enquêteur, comme on dresse un jury pour juger quelqu'un en cours.
Oui.
Je trouve que c'est la façon la plus démocratique qui puisse exister, et qu'il y ait là-dedans qu'il y ait des bères, des noirs, des latinos, de l'Est, des gens un peu de partout, qui puissent participer, donner leur opinion.
Redonner la société civile un petit peu plus de poids.
L'image de la société.
Je passe directement maintenant le micro Madame Perlette Daher. Vous, madame, bonjour madame Daher.
Bonjour à tout le monde.
Ça va bien?
Non, ça va pas bien.
Justement, on parlait des bavures policières et tout. Je sais que vous êtes parmi ces centaines, je dirais des milliers de personnes qui sont malheureusement victimes des bavures policières et tout. Vous êtes là. Moi, ce qui m'a toujours, j'ai toujours aimé chez vous, c'est vraiment, vous n'avez jamais lâché le morceau. Vous avez toujours persisté vous êtes toujours devant les tribunaux pour réclamer justice.
On ne peut pas s'arrêter là. Moi, je suis meurtrie par tout ce qui s'est passé.
Oui.
Parce que ce n'est pas question de mérite que je ne méritais pas ça ou ça.
Oui.
Mais l'injustice sociale, surtout concernant les policiers qui sont là pour aider la population.
Vous parlez de toutes les autorités, là.
Exactement.
Oui, oui, oui.
Les autorités, oui,
oui.
Bien sûr, c'est eux qui sont les premiers là, à être blâmés.
Oui.
Puis, je trouve que c'est vraiment inacceptable que les autorités qui sont là pour nous aider...
Oui.
au lieu de nous aider, ils viennent contre nous.
Oui.
Et je regrette un certain temps où vraiment les policiers, surtout les policiers, c'était des gens vaillants. C'était oui. des gens qui étaient là pour secourir les gens, pour les aider. Et c'était vraiment, on était en admiration devant eux. Et toute la population les saluait. Je me rappelle aussi qu'une fois, je faisais mon cours d'esthétique et c'était vers 11h du soir, on avait trop tardé. Et il y avait une patrouille de policiers qui avait passé. Ça, c'est dans le temps, c'est plus maintenant. Hein.
Oui. Ici à Montréal?
Oui, ils se sont arrêtés pour nous dire, mais il est 11h du soir, où est-ce que vous habitez, qu'est-ce que vous faites? On leur a expliqué qu'on venait de sortir d'un cours d'esthétique. Ils nous ont accompagnés chacune.
Ils nous ont conduits chez
nous? Ils nous ont conduits, ils nous ont fait monter. Puis ça, c'était vraiment, ça m'a beaucoup touché. Je ne pourrai jamais oublier ce geste-là, un geste protecteur.
Alors, vous reprochez, mais je vois, je comprends, d'après vos propos, comme quoi vous proposez, la jeune génération des policiers, ils sont tout à fait le contraire des.
Je suis meurtrie, je suis sortie repliée sur moi-même, je vis isolée, je n'arrive plus même à avoir un contact avec les gens tellement.
Mais le problème,
j'ai peur même de sortir de la maison, parfois pour ne pas avoir des problèmes. J'ai eu assez de problèmes avec eux, injustement. Ils n'ont jamais été là pour m'aider. Au contraire, vous appelez les policiers pour vous aider, et au lieu de vous aider, ils viennent contre vous et vous devenez vous les criminels.
Vous avez une peur bleue des policiers?
J'ai une très très grande peur qui m'ont complètement meurtri et puis je n'ai plus, ils m'ont détruit complètement, j'ai plus le goût de vivre même.
C'est bizarre parce que toutes les victimes que je rencontre au bureau et tout, et les plaignants, ils ont le même avis. C'est bizarre comment cette confiance-là, elle est de plus en plus, elle prend l'espace et la distance entre les policiers.
C'est quasiment un syndrome.
J'ai même pas besoin.
Oui, tout à fait.
C'est un syndrome.
Ouais. J'ai même pas besoin d'énumérer. Je vais prendre un petit exemple, le pauvre Lisotte, tout le monde en parle de lui.
Oui.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été battu à mort.
Oui.
Au lieu qu'on lui tende la main, qu'on l'aide, qu'on le secoue, ils l'ont battu à mort.
Alors, oui, il n'est pas le seul, hein, il y a des.
Oui,
c'est un exemple, c'est tout. Oui.
Simplement, quand vous pensez à ça et que vous voyez les journaux et tout ce qui se passe là, vous perdez la raison. Quand vous voyez un policier, alors pour moi, c'est plus un policier. C'est juste un ennemi, mais heureusement que ce n'est pas tout le monde. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier.
Donc 2011, il vous a marqué comme quoi toujours les bavures continueront.
Elle m'a beaucoup marqué, beaucoup meurtri.
Je m'excuse, mais M. Cortroni, lui, il n'a jamais été agressé par les policiers. C'est drôle, crime.
Oui, c'est peut-être lui qui les agresse, par contre.
Par contre, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police a peur de la mafia.
Oui.
Existantes. Par contre, des personnes âgées, c'est facile à cogner. Oui. Je m'excuse de faire cette intervention, c'est nécessaire pour les personnes âgées.
Peut-être que je passerai directement avec Mme Legault. On reçoit au bureau, vous faisiez le suivi des plaintes et tout. 2011, qu'est-ce qui vous a marqué en 2011 en rapport avec le travail que tu fais à MAJ?
Mais justement, pour répondre à Mme Daher, je constate dans le cadre de mon travail avec les appels et les gens que je reçois qu'il manque grandement d'éducation auprès des policiers. Franchement, ils savent absolument pas quoi faire quand ils sont face à des pratiques qui sont différentes des pratiques courantes québécoises de souche basique. Donc avec les immigrants, souvent il y a des frictions qui mènent à des trucs ultra dramatiques qui auraient pu être très bien déconstruits avec un peu de connaissance de leur part et un peu de la conscience qu'ils sont en position d'autorité.
Oui.
Ils ne sont pas des citoyens, ils ne se représentent pas eux-mêmes, ils représentent l'État, ils représentent l'autorité, ils sont armés, ils ont une force certaine.
Mais Madame Legault, expliquez-nous, est-ce que c'est vraiment un manque de formation, c'est le type lui-même qui fait défaut, c'est le choix, hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui sont faits pour être docteur, j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui sont faits pour être policier aussi, hein.
Certainement, moi je veux pas m'avancer là-dessus, j'ai pas fait d'études sur ça, mais je suppose que c'est un manque d'éducation. Peut-être aussi l'attraction du pouvoir du policier peut être fort chez certains, alors que oui, c'est ça. Oui, l'envie de sortir les gros guns puis d'avoir un certain pouvoir.
C'est vraiment dégueulasse que j'entends ça. J'aimerais bien entendre, madame, vous voulez ajouter quelque chose, madame Daher?
Oui, quelque chose de très important, c'est que les policiers, malheureusement, la majorité des policiers maintenant n'ont plus aucune formation. Et la première chose
ils ont une formation.
une fausse formation. C'est pas une formation adéquate.
Ils sont mal formés.
Ils ont une formation de policier, pas nécessairement une formation en relations interculturelles, une formation en santé mentale. Ça serait important. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale. Comment on traite avec eux? Ça n'a pas l'air d'être appliqué.
Je me demande aussi si je me trompe pas, peut-être c'est la sélection aussi de choisir les types. C'est ça qui est plus important aussi. On va juste,
ce qui frappe le plus, c'est que la première chose que les policiers vous demandent, où habitez-vous, dans quel quartier, vous habitez dans un HLM, donc c'est une profilation raciale maintenant qui est tellement discrimination. Et puis on dit qu'il n'y a pas de racisme, le racisme existe encore de plus en plus fort. Ce qui meurtrit la population, c'est terrible, ça nous dépasse.
C'est le même cas dans les autres pays, en France.
Si vous me permettez, peut-être je passerai la parole.
En France aussi, dans les autres pays, en voit.
Oui, et peut-être si vous me permettez aussi de passer la parole à Maître Andrea Popisco. Elle nous dit un mot sur ce qui lui a marqué en 2011.
Ah oui, mais avant de passer à ce point-là, j'aimerais aussi ajouter un petit peu, comme Mme Legault et nos collègues ici, qu'en effet, je crois qu'il y a en ce moment dans le système de formation des futurs policiers une faille. Et nous avons une responsabilité en tant que société, en tant que citoyen, de voir avec les gens qui contribuent à créer ce programme, à créer la formation, ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, parce que même moi dans ma pratique, je le constate souvent, les policiers ne sont pas nécessaires. Il y a l'aspect du power trip, ce qu'on appelle, mais il y a aussi l'aspect de, ils ne savent pas comment gérer certaines situations, comment approcher certains individus et certaines crises. On a le cas de je crois Mario Hamel de cet été. Et c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup.
Je comprends, maître.
Donc, je ne sais pas, ça serait quelque chose à bien regarder pour les années à venir.
Maître André, je ne sais pas si vous avez le même pressentiment que le mien. On dit que les citoyens ont peur des policiers. C'est bizarre. Un citoyen, il essaie toujours d'éviter le regard, de croiser un policier. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez une réponse pour ça.
Je sais, oui, peut-être que les citoyens ont peur des policiers.
Il y a un aspect très important.
Je crois que les deux parties doivent se mettre en tête qu'il faut respecter l'autre.
Exactement.
Les gens doivent respecter l'autorité. Ils sont là pour nous protéger en tant que société.
Vous pensez que les citoyens ne respectent pas l'autorité? Moi, je ne suis pas d'accord.
Non, mais ça va dans les deux sens. Oui. C'est sûr qu'il faut avoir un certain respect. Bien entendu, le policier aussi doit respecter le citoyen. La façon comment l'approcher, comment lui poser des questions.
Tout à fait, c'est ça. C'est...
laisser un petit peu peut-être le côté méprisant, arrogant de côté, puis même dans les plus simples échanges, lorsqu'on brûle une lumière ou on ne fait pas correctement un arrêt, tout est aussi dans la question d'échanger. Donc,
ce n'est pas tous les policiers, parce qu'il y a certains policiers qui sont vraiment énormément respectueux.
Mais je l'entends de plus en plus. Ça commence, c'est seulement les cas ultra dramatiques comme Mme Legault les nomme. Ça commence à la base, ce sont des trucs, un manque de respect. Soit le policier il était arrogant, le citoyen l'a mal pris, lui a répondu, alors le policier n'a pas apprécié l'intervention de l'autre. Donc souvent, c'est à cause de ce type d'échange où ça dérape.
Oui, mais dans votre pratique aussi, à propos, on parle toujours des policiers, patrouilleurs simples et tout, à propos des enquêteurs aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que tous les enquêteurs, parce que me semble que les enquêteurs, ils font beaucoup de gaffes et d'erreurs aussi.
Malheureusement, comme dans le système de la santé, le système de la justice, tout n'est pas parfait. C'est la même chose pour les enquêtes.
Vous le savez mieux que moi,
dans le travail des policiers, etc. Il manque de ressources, manque de volonté. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais ce n'est pas un système parfait. C'est celui qui a place à la manière.
Allons jusqu'à la négligence aussi. Hein, parce qu'imaginez-vous que c'est grave, parce que quand un enquêteur il prépare son dossier, il prépare finit son enquête, il va la déposer à un procureur, il va avaler tout ça, et le juge, malheureusement, la plupart du temps, emboîte le pas, et c'est ça qui amène aussi à envoyer des innocents derrière les barreaux. Ça, c'est vraiment grave aussi. Mais...
moi, j'ai une intervention à faire. Moi, il m'est arrivé un policier qui m'interpelle c'est très bien, il fait son devoir, on est payé, on le paye pour ça, c'est correct. Et lorsque j'approche de la voiture, il me fait approcher, puis ensuite il me dit, pousse-toi de ma voiture. Je m'excuse. Ce policier mérite d'avoir un enseignement. C'est notre voiture à nous, citoyens, et nous lui passons une voiture pour qu'il gagne sa vie.
C'est même pas question
que... Lui ne participe pas au coût de cette voiture.
Peu importe, la voiture c'est acquis. C'est juste une question simple de respect.
De s'adresser... Si vous me permettez, parce que le policier dit c'est pousse-toi de ma voiture.
Je regrette.
Exactement. C'est juste une question de respect. Respecter l'autre.
C'est ça. C'est un manque de respect et une arrogance. Moi, ce que je prétends, c'est que le policier, j'ai répondu au policier, ce n'est pas ta voiture, c'est notre voiture. Il dit, mais moi aussi, je participe. Non, tu ne participes pas. Tu fais ton salaire avec notre voiture qu'on t'offre pour travailler. Une chose qu'on ne me donne pas à moi, citoyen. Alors, il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il dit. Son arrogance est blessante.
Tout à fait. Je suis d'accord avec vous.
Je vais juste passer la parole parce que je vois Madame Daher en train de pleurer et ça m'a vraiment touché. Je veux savoir qu'est-ce qui vous fait pleurer, Madame Daher, s'il vous plaît.
Mais je pleure parce que ils m'ont brisé ma vie. Je ne fais que passer par les tribunaux, par des juges injustes, par des policiers qui m'attaquent. Je demande leur aide.
Qui vous ont attaqué, oui, parce qu'ils m'ont demandé de l'aide.
Mais oui, j'ai demandé de l'aide et au lieu de m'aider, ils m'ont séquestré dans une petite chambre de policiers là, et ils m'ont donné en plus un constat d'infraction pendant que c'était moi qui les avais demandé pour pouvoir m'aider. Alors jusqu'aujourd'hui là, je n'arrive plus à m'en sortir. L'injustice grandit en moi, les obstacles, et puis mon esprit et mon corps n'arrivent plus à réagir tellement je suis confrontée avec des policiers qui n'ont pas, je ne parle pas d'expérience, mais qui n'ont plus aucun sens de ce que est un policier. D'ailleurs, quand vous les voyez marcher dans la rue, ils ont toujours la main sur leur gang, là. On dirait qu'ils sont prêts à, se défendre pour eux-mêmes, qu'ils se défendent pour eux au lieu qu'ils sont là pour nous défendre. Pourquoi marchent-ils avec la main toujours avec, sur le revolver, là?
Oui.
Et se sentent-ils toujours attaqués?
Sont menacés.
Qui peut les attaquer, qui peut les menacer? Puis ils vous regardent avec arrogance.
Madame Daher, sur tout ça, ce que je retiens de vous là, c'est qu'un événement, ou deux événements, trois événements, ils vous ont complètement basculé votre vie là.
Complètement.
Vous n'avez presque pas de vie aujourd'hui.
Je n'ai plus de vie du tout, je suis toujours dans les tribunaux, et ce que je demande à tous les citoyens, je vous en prie, écoutez-moi, il ne faut jamais lâcher prise, il faut continuer la lutte jusqu'au bout, sinon le monde ne changera jamais. Pour changer ce monde-là, on a besoin de paix, et pour avoir la paix, il faut que les policiers commencent par apprendre à
respecter
citoyens. Et pas seulement respecter, mais ne pas confronter entre quelqu'un qui, ils veulent simplement le détruire. Ils sont là pour détruire les gens. Pourquoi ils sont là pour détruire? Parce qu'ils ont une autorité qui est mal faite.
Et combien de vies sont détruites aussi à cause d'une négligence comme celle-ci?
Quand on veut être policier, avant tout, il faut avoir un cœur fraternel. Ne plus avoir cette question de racisme, cette profilation raciale. Le policier, quand il arrive, il faut qu'il sache que cette personne qui est là, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de lui parce qu'il est payé. Il est là pour nous. Il n'est pas là pour lui.
Mais c'est vrai que tout ce que, au moins, la moindre chose qu'on demande, c'est le respect. Est-ce que le respect, c'est quelque chose de grand à demander? Maintenant, je passerai.
Surtout arrivé à un certain âge.
Il profite de la faiblesse de la personne pour pouvoir me prouver leur autorité. Ah, et en plus de ça, le policier, quand il arrive, déjà, dès qu'il arrive, il a dans la tête que cette personne-là, elle est criminelle. Ce n'est pas une personne qui demande de l'aide. Non.
Ouais. Vous parlez des arrestations systématiques. Maintenant, j'aimerais bien qu'on ne peut pas passer sans parler de la fraternité policière. Et j'aimerais bien que vous me disiez un mot sur ça.
Moi, je dis que ce n'est pas une fraternité policière, c'est une confrérie policière. Pour commencer, un syndicat. Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? C'est sur les lois du travail, les normes du travail.
Oui. Mais je veux savoir, dès le départ, Monsieur Roland...
La confrérie policière, pourquoi? Parce qu'ils les défendent à tout prix. Qu'ils aient tort, qu'ils aient raison, le syndicat est là pour appuyer. Je m'excuse, ce n'est pas le rôle du syndicat. Le syndicat doit appliquer les normes du travail. des policiers. Je suis entièrement d'accord que l'emploi, mais moi je ne peux pas comprendre qu'un syndicat appuie un policier qui a descendu quelqu'un, qui a tiré à bout portant sur quelqu'un. Je ne peux pas comprendre qu'un syndicat puisse aider le crime, parce que j'appelle ça un crime.
Mais vous savez bien que la devise des syndicats, de la fraternité policière, c'est vraiment de soutenir le policier à tort ou à raison.
Non, je regrette infiniment, ce n'est pas son rôle. Il vient d'être complice automatiquement d'un crime. Je regrette. Et je ne comprends pas que notre justice au pays puisse appuyer ce syndicat-là. Je regrette le syndicat, par exemple, la CSN, la FTQ, qui appuie certains employés. C'est d'après le code du travail. C'est d'après le code du travail, non pas d'après le code criminel ou le code civil.
J'aimerais bien juste poser une petite question à madame, à maître Andrea Popisco. Le 2012, on commence le 2012. Pensez-vous, est-ce qu'on a un espoir, quelque chose qui va changer?
Il faut toujours garder espoir. Et vous savez, si ce n'est pas juste de la théorie, c'est quelque chose qui doit se concrétiser. Comment se concrétise? Avec l'appui de tous. Nous avons tous un rôle à jouer en tant que citoyens d'une société démocratique.
Ouais.
Et il y a là notre espoir. Donc, tout dépend de moi, de vous, de chacun d'entre nous pour améliorer les choses. C'est sûr que, comme Madame Dair le disait, si on ne fait rien, on perd l'espoir, la situation risque de se dégénérer à la place de s'améliorer.
Ouais.
Ça nous ramène à ce qui t'a marqué, Andrea, cette année, l'année passée, en 2011, cette notion d'espoir-là a été transmise un peu avec Jack Layton.
Exactement.
Oui.
Parlant de ce qui s'est passé en 2011, le départ de M. Layton, pour moi personnellement, ça a été une nouvelle extrêmement triste. Oui, ouais. ça a laissé un vide dans mon cœur. Ouais. Mais en même temps,
son message d'espoir, c'est quoi?
Je le représente toujours, cet espoir-là. Le parti, je ne parle pas M. Layton, lui il est mort.
Je ne me prononce pas sur nécessairement la ligne du parti. Je garde en tête la lettre laissée par M. Layton quelques heures avant son décès.
Ouais.
Je crois que le mot qui me reste en tête, c'est l'espoir.
C'est l'espoir.
Oui,
l'espoir
fait vivre. Hein. Mais moi, il y a une chose que je tiens à rappeler. Ouais. On s'est fait bel et bien baiser au Québec. Et j'emploie le bon mot, on s'est fait baiser par les conservateurs et le NPD. Merci, les voteurs ne savent pas voter, et bien maintenant ils vont payer. Les compagnies ferment, les gens se retrouvent au chômage, par milliers au chômage. Les compagnies vont déménager en Ontario, regardez bien messieurs et mesdames. Et puis je vous annonce, en bonne et due forme, que tous les contrats de maritime n'ont pas été donnés au Québec, ils n'ont pas été proposés. Merci, le NPD. Merci le NPD, enfin, et des gens qui ne parlent même pas notre langue, le français.
Voilà donc, chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. J'aimerais remercier tout d'abord Maître Andrea Popisco pour son intervention et pour le temps qu'elle nous accorde chaque fois qu'on a besoin. J'aimerais aussi remercier Roland Cazès pour ses interventions, Madame Dair pour son témoignage, un gros merci de notre part, Madame Legault pour toutes les informations que vous nous avez données, un merci à vous aussi. Alors à Radio Centre-Ville 102.3 FM, on dit merci de nous avoir cédé les ondes afin que la parole de l'autre existe. Je vous dis merci, chers auditrices, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. À vendredi prochain et à la même heure. Merci. Au revoir.
Président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux. J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père, lui, les flics, les curés, et puis les militaires, les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi, dès qu'il peut en bouffer, le vieil anard, il se gêne pas. Le vieil anard, il se gêne pas. Alors il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi, c'est con, je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas, je suis là avec des potes.
Alors amis, montre-toi. toutes les tragédies que tu as vécues. La femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort. Tout ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale. Aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi et tu auras ta vengeance.
Les mutants ? Non, je ne les déteste pas, mais il faut les contrôler.
Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi, dès 13h.
Descendons! Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
Lorsque vous insérez une plaque porte-clés des amputés de guerre dans votre trousseau de clés, vous bénéficiez d'une mesure de sécurité et vous appuyez le programme pour enfants amputés. Si vous perdez vos clés, c'est votre plaque porte-clés qui permettra à l'association de vous les retourner par messagerie. Un service simple, rapide et gratuit. Grâce à votre soutien, les enfants amputés reçoivent les membres artificiels dont ils ont besoin pour mener une vie active. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedeguerre.ca.
On vit dans un monde HD. Moi, je suis complètement HD maintenant. Ma télé, mon téléphone, tout.
Es-tu vraiment HD dans un monde HD?
Ben, tu penses pas?
Si tu veux être totalement HD, humainement digne, va faire le test au léger.org/HD.
Depuis 35 ans, nous permettons aux Montréalais et Montréalaises de toute origine d'échanger et de construire sur ce qui les unit. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.